RFI, 7h à Paris, 6h à Ziguinchor et en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une ce matin, première prise de parole des chefs d'État présents hier à la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan.
Dont celle du président azerbaïdjanais pour qui le gaz et le pétrole sont un cadeau de Dieu. Keir Starmer, le premier ministre britannique, a quant à lui annoncé un plan ambitieux. Retour sur les différentes déclarations dans un instant. 2025, année de la souveraineté israélienne en Judée, Samarie. Les propos polémiques du ministre des Finances de Benjamin Netanyahou sur l'avenir de la Cisjordanie occupée. Reportage dans ce journal entre Ramallah et Naplouse. Au sommaire, également la Russie où les vols de plaquettes de beurre se multiplient. La faute à son prix qui s'envole plus 25% en un an. Nous serons en direct de Moscou et puis nous irons au cinéma pour la sortie aujourd'hui du 51e film de Claude Lelouch. Le réalisateur français multi-récompensé sort finalement.
À Bakou, en Azerbaïdjan, troisième journée, aujourd'hui à la COP29.
Conférence sur le climat en l'absence de nombreux chefs d'État des pays du G20 et dont le principal objectif cette année, c'est l'aide financière aux pays en développement pour faire face au changement climatique. Ils ne peuvent pas repartir les mains vides, a prévenu Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Le président azerbaïdjanais, pays hôte et dont l'économie repose essentiellement sur le gaz et le pétrole, s'est exprimé devant les dirigeants présents en surprenant la Assemblée, Jeanne Richard.
Pour son discours d'ouverture de COP, le président Ilham Aliyev n'a pas hésité à défendre le gaz et le pétrole, alors que les énergies fossiles sont responsables de 90% des émissions de CO2 dans le monde.
Je l'ai dit il y a quelques mois et je vais le répéter aujourd'hui, c'est un cadeau des dieux et on ne devrait pas reprocher aux pays d'en avoir et de les mettre sur le marché parce que les marchés en ont besoin, les gens en ont besoin.
Le pays prévoit d'ailleurs d'augmenter sa production d'hydrocarbures. Sans doute, le champion de la journée aura donc plutôt été le Royaume-Uni qui a annoncé un plan climat très ambitieux, 81% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2035. Le pays profite du retrait américain pour prendre les devants sur la scène climatique. L'Union européenne est également attendue au tournant. Charles Michel, président du Conseil européen.
Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Nous sommes au rendez-vous du financement. Je forme le vœu que cette COP soit celle de la confiance, de la ténacité et des actes qui se joignent aux paroles.
Et l'attente est forte, de nombreux dirigeants de pays en développement ont rappelé à quel point ils étaient vulnérables et à quel point jusqu'à présent les financements n'avaient pas été à la hauteur.
Et si Joe Biden n'est pas présent à cette COP 29, les représentants américains assurent que les États-Unis poursuivront leurs efforts de lutte contre le changement climatique, même une fois Donald Trump arrivé au pouvoir. John Podesta, l'envoyé de Joe Biden, a d'ailleurs annoncé hier que les compagnies pétrolières et gazières se verraient imposer une taxe sur les émissions de méthane aux États-Unis.
De son côté, Joe Biden reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche Donald Trump, une semaine après son élection.
Donald Trump qui a continué de dévoiler hier soir le casting de son administration. Elon Musk, son principal soutien durant la campagne, hérite d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Il le partagera avec Vivek Ramaswamy, Pete Hegseth, présentateur de Fox News, militaire de formation, occupera quant à lui le poste de secrétaire à la Défense. La gouverneure du Dakota du Sud, Christine Noem, obtient le ministère de la Sécurité intérieure. Mike Kukabi est noté en tant qu'ambassadeur en Israël.
En Israël, beaucoup espéraient la victoire de Donald Trump et notamment le ministre des Finances de Benjamin Netanyahou.
2025 sera l'année de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. C'est ce qu'a assuré Bezalel Smotrich, ministre d'extrême droite qui entend normaliser l'idée d'une annexion de la Cisjordanie occupée. Pour les Palestiniens, ce n'est pas forcément une surprise. Le reportage à Tourmoussaya entre Ramallah et Naplouse d'Alice Froussard.
Du haut de la colline qui surplombe le village de Tourmoussaya, Yasser Al-Kam pointe du doigt la colonie israélienne en face, Shiloh, et soupire. Ce Palestinien d'une soixantaine d'années énumère les attaques de colons des alentours ces derniers mois.
Ils brûlent nos oliviers, ils brûlent nos serres. C'est juste quelque chose de quotidien à laquelle les gens sont en train de s'habituer. Et parfois, vous vous dites que vous devenez fou et que vous allez exploser. Mais qu'est-ce que je peux bien faire d'autre ?
Dans le village comme ailleurs, le grignotage des terres se fait progressivement, plus la colonie s'étend. À cause des attaques, les Palestiniens ne s'aventurent pas de l'autre côté de la route. Pour beaucoup, l'annexion existe déjà de facto.
Chaque ville ici est entourée de nombreuses colonies. Et les colons agissent de la même manière.
Donald Trump, de retour ou non, Yasser Al-Kham assure que Benjamin Netanyahou ne fait que ce qu'il souhaite. Pour Amir, un jeune palestinien, la trentaine, les rêves d'annexion des colons et de leur gouvernement sont loin d'être une surprise.
Ça fait plus de 70 ans que le monde entier ne nous soutient pas. Donc je ne pense pas que les Palestiniens attendent quoi que ce soit de l'extérieur.
Si personne n'arrête, dit-il, le génocide à Gaza, personne n'empêchera Israël d'annexer la Cisjordanie occupée.
Peu importe si les Israéliens prétendent que c'est leur pays. Je suis certain qu'ils savent très bien au fond que ce n'est pas le leur. C'est pour les Palestiniens et ça restera aux Palestiniens. Qu'importe la relation de pouvoir.
Et peu importe la croyance des uns et des autres. Alice Froussard, de retour de Tourmousaya, RFI.
À Gaza, le Hamas accuse Washington d'être complice, je cite, d'une guerre génocidaire, après que les États-Unis ont estimé hier que l'État hébreu, qui a annoncé dans la journée l'ouverture d'un nouveau point de passage dans la bande de Gaza, n'enfreignait pas le droit américain concernant l'aide humanitaire.
En Russie, est-ce un mauvais signe pour Vladimir Poutine? Les chiffres trimestriels de croissance du PIB et de l'inflation sont attendus aujourd'hui.
Le PIB qui devrait confirmer une économie en croissance, toujours tirée par les dépenses de défense, mais l'inflation, elle, confirmée qu'elle est toujours galopante à plus de 8%, et cela malgré un taux d'intérêt record de la Banque centrale à 21%. Après les œufs, c'est maintenant le prix des produits laitiers et notamment du beurre qui a explosé. Bonjour Anissa Al-Jabri.
Bonjour.
Envoyée spéciale permanente de RFI en Russie, si le beurre est de plus en plus cher, c'est à cause d'une pénurie de matières premières et de la hausse des coûts de fabrication, car la main d'œuvre est plus rare et plus chère qu'avant. Pourtant, il faut bien faire tourner les usines.
Et oui, et imaginez des images tremblantes sur une vidéo surveillance de supermarché. Un homme cagoulé en noir qui surgit ici. Ce n'est pas pour braquer l'argent dans la caisse, mais bien pour embarquer du beurre. 20 kilos, c'était à Yekaterinbourg le 5 novembre dernier. Le montant du butin, 100 000 roubles, 1 000 euros, on dit long sur l'explosion des prix du beurre. Plus de 25% en moyenne en un an. C'est très au-dessus de l'inflation de l'alimentaire estimée, elle, à 9%. Imaginez encore, la première chaîne de télévision russe en est à faire des reportages sur les bienfaits de la margarine. Le ministère de l'Agriculture, lui, multiplie les réunions, annonce une future stabilisation des prix grâce aux importations notamment de Turquie. Commentaire sceptique d'une économiste, on ne peut pas se battre sur le champ de bataille et combattre l'inflation en même temps. Le sujet est particulièrement sensible pour un pouvoir qui a toujours promis à sa population que sa guerre en Ukraine n'aurait aucun impact sur la vie quotidienne. En attendant, d'autres vols, moins spectaculaires mais visiblement trop réguliers, ont contraint certains supermarchés à prendre des mesures. Même dans la capitale russe, le beurre peut parfois être placé dans un frigo sous clé avec les produits comme le caviar.
Merci beaucoup Anissa Al-Jabri, envoyée spéciale permanente de RFI en Russie.
Clap de fin hier des auditions des 26 commissaires européens proposés par les États membres. Tous sont passés sur le grill.
Car leur nomination doit encore être approuvée par un vote du Parlement européen devant les commissions parlementaires responsables de leur futur portefeuille. Tous les candidats ont passé l'oral. Un seul auditionné la semaine dernière n'est toujours pas fixé sur son sort, le Hongrois Oliver Varelli, proche de Viktor Orban. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Le Parlement européen ne peut pas rejeter un commissaire seul, mais l'ensemble du collège. Explication avec Pierre Benazet.
Les auditions de ce mardi ont été positives pour l'ancienne première ministre lettonne Kaja Kallas, candidate au poste de chef de la diplomatie européenne. Deux candidats s'en sont un peu moins bien sortis. C'est surtout le cas de Raffaele Fitto, fortement attaqué par les écologistes pour son appartenance au parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, classé très à droite. Vient ensuite le français Stéphane Séjourné, armé d'un maigre bagage en matière de compétences économiques pour le portefeuille qu'il brigue. Mais il n'a cependant pas été la cible d'attaque des socialistes, signe que ce parti va jouer le jeu de la coalition avec les centristes de Renew et le centre-droit du PPE. Il reste qu'on est désormais entré dans ce que certains appellent ici l'équilibre de la terreur. Dans l'ensemble, il n'est plus question de compétences. Les partis craignent de refuser le candidat d'une autre formation, de peur que l'un des leurs soit récusé par rétorsion. La réponse n'est pas pour tout de suite, car les réunions des commissions qui doivent décider ou non de donner leur aval ont été repoussées à ce mercredi au plus tôt. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Au Sénégal, J-4 avant les élections législatives, une fin de campagne sous haute tension.
Ces derniers jours, les affrontements entre le PASTEF du Premier ministre Ousmane Sonko et la coalition SAM Sakadou de Barthélémy Diaz se sont multipliés. Hier, le maire de Dakar a pris la parole devant des sympathisants encore sous le choc et dans un climat tendu. Reportage du correspondant de RFI, Gwendal Lavina.
Ce devait être une conférence de presse au siège de la coalition Sakadou, mais sa tête de liste s'est retrouvée barricadée à son domicile. Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, a donc fait venir journalistes et militants jusqu'à lui. Malgré la musique, la tension est palpable. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre car un peu plus tôt dans l'après-midi, des militants du PASTEF, dont le meeting avait lieu dans la zone, ont tenté de s'approcher. Marie Chantal habite le quartier.
Vraiment, c'est déplorable. Je ne m'y attendais pas. Il pouvait bien venir faire sa campagne, venir avec sa caravane, sans pour autant semer toute cette zizanie. On a reçu des cailloux, du gaz lacrymogène à la maison. On ne pouvait plus respirer. Ça, c'est inadmissible.
Un sentiment partagé par ce sympathisant de la coalition Sam Sakadou qui en veut à Ousmane Sonko et lui reproche d'attiser la haine et la violence.
Quand on est Premier ministre, il y a des discours qu'on ne doit pas tenir. Sonko doit tenir des discours de vérité. Un Premier ministre a une obligation de parler correctement. Le courage qu'on porte, lui, il ne l'a pas.
Longuement applaudi, Barthélémy Diaz a dénoncé le comportement d'Ousmane Sonko et l'arrestation de plusieurs membres de son service de sécurité. Puis il a lancé un appel à ses électeurs.
Évitez surtout d'accepter de verser dans le jeu de la manipulation, dans le jeu de la violence et dans le jeu de la terreur.
Pour les trois derniers jours de campagne, Barthélémy Diaz sillonnera la ville de Dakar afin de convaincre les derniers indécis. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
On termine ce journal au cinéma.
Et Claude Lelouch revient aujourd'hui avec son 51e film intitulé « Finalement, l'histoire d'un homme qui un beau jour décide de tout plaquer ». Elisabeth Le Carré.
Est-ce qu'on peut échapper à sa vie ? Et surtout à l'envie de goûter toutes les autres vies possibles, celles qu'on voit filer au loin à l'approche de la cinquantaine. Avocat parisien réputé, Lino Cadmerade, envoie tout valser, boulot femme et enfant. Comme un malfrat en cavale, comme un adolescent en goguette, il se fait la belle, un voyage qui l'entraînera de ville en ville et de femme en femme. Claude Lelouch.
On est dans un monde de contraintes et... Il y a pas mal de prisons, notre travail, la famille font que on est à deux doigts du burn-out et donc il a envie de s'offrir une récréation avec lui-même, il a envie de se retrouver lui-même. Et c'est vrai que dès qu'il tombe sur des gens intolérants, la machine à vie se remet en route, voilà. Et encore une fois, c'est la force du positif sur le négatif, quoi.
Donc finalement, Claude Lelouch semble rejouer tout son cinéma, c'est décousu. Avec une intrigue des plus improbables, tissée de dialogues qui fustigent volontiers cette époque où l'on ne peut plus rien dire, il faut alors se laisser guider par les formidables acteurs du casting, Cadmerade, Françoise Fabian, Michel Bougenat ou encore Sandrine Bonner, car ce sont eux qui donnent vie à cette fable échevelée.
Claude Lelouch, qui est l'invité culture du jour sur RFI, interview à écouter en intégralité à 11h40 en universel et sur l'application et le site de RFI, RFI.fr.
Merci Alban Leprince. 7h13 à Paris, dans 20 minutes, le journal Afrique, reportage à Maputo à suivre au Mozambique alors que la contestation continue dans le pays. Comment vivent les habitants, les commerçants de la capitale? Vous l'entendrez, réaction dans ce reportage dans le journal. Alors que la COP29 se poursuit à Bakou, on s'intéresse dans un instant aux réfugiés climatiques qui seront de plus en plus nombreux dans les années à venir. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et notre invité, il répond ce matin aux questions d'Arnaud Pontus. Restez avec nous, d'abord le sport. Et du football à la une, Christophe Diremzian, veille de match à haut risque entre l'équipe de France et Israël pour la 5e journée de la Ligue des Nations.
Oui, gros dispositif, on le sait, autour et dans le Stade de France, ainsi que dans les transports en commun qui emmèneront les fans vers l'enceinte. Elle sera très loin de faire le plein d'ailleurs, cette enceinte, environ 20 000 personnes attendues seulement. L'État hébreu déconseille d'ailleurs aux supporters israéliens de se déplacer. C'est donc dans ce lourd contexte que les Bleus vont tenter d'assurer leur billet pour les quarts de finale, sans Kylian Mbappé. Pas retenu, on le sait, par Didier Deschamps pour ce rassemblement, entre problèmes extra-sportifs et problèmes également au Real Madrid, problème d'efficacité. L'attaquant, habituellement capitaine, semble usé mentalement, mais il garde le soutien de ses coéquipiers, comme celui par exemple du défenseur Dayot Upamecano, très compréhensif à son égard.
On est des êtres humains. L'absence mentale compte beaucoup pour nous, les footballeurs. Il faut pas oublier que c'est notre capitaine. Ce qu'il a fait pour l'équipe de France, je pense qu'on manque un peu de reconnaissance envers lui. C'est un ami aussi et je sais de quoi il est capable. J'espère le revoir très vite. Dès qu'il va revenir, j'espère qu'il va reprendre le brassard.
Dayo Upamecano avant France-Israël. Demain, 19h45, temps universel. Avant les hommes, les dames sur les terrains depuis hier. Avec la troisième journée de la Ligue féminine des champions, les Lyonnaises, fortes de leurs deux premières victoires, jouent tout à l'heure sur le terrain de l'AS Rome. 19h45, temps universel. Parmi les résultats d'hier, les tenantes du titre, double tenante du titre d'ailleurs, le FC Barcelone, ont puni les Autrichiennes de Saint-Polten 7-0.
Le tennis à présent. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, enchaîne une deuxième victoire dans la phase de groupe des finales ATP de Turin.
À peine plus compliqué que la première dimanche, l'Italien a battu l'Américain Taylor Fritz 6-4, 6-4 et jouera sa qualification pour les demi-finales demain face au Russe Daniil Medvedev qui, lui, s'est bien relancé après son gros loupé inaugural, justement contre Fritz. Cette fois, il a largement dominé l'Australien Alex de Minaur 6-2, 6-4, de quoi préserver le suspense avant le choc décisif avec l'actuel meilleur joueur du monde, un Medvedev serein, sans pression avant cette confrontation, même si son bilan récent contre Sinner n'incite pas forcément à l'optimisme.
Ça va vous paraître bizarre parce que j'ai perdu beaucoup de matchs, mais j'ai l'impression que tactiquement je sais ce que je dois faire. Le gars est très fort, donc vous pouvez faire le meilleur match possible et vous pouvez quand même perdre. C'est une réalité et ce n'est pas une réalité facile, mais maintenant, comme je l'ai dit après le match d'aujourd'hui, je vais juste jouer mon tennis, je perds facilement, c'est bon, je gagne facilement, c'est parfait, je vais voir comment ça se passe, je vais essayer de bien préparer et je vais juste y aller.
Et au programme de l'autre groupe aujourd'hui, l'Espagnol Carlos Alcaraz face au Russe Andrei Rublev et l'Allemand Alexander Zverev opposé au Norvégien Casper Ruud. Un petit point sur le Vendée Globe au dernier pointage de cette nuit à 2h temps universel. C'est Johan Richom qui a pris la tête de la course devant Charlie Dalin à un peu plus de 6000 nautiques et le Britannique Sam Goodchild à près de 11000.
Christophe Diremzian pour le sport. Vous revenez tout à l'heure, 8h42.
RFI Matin.
Notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie sur RFI. Et ce matin, on s'intéresse au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui entre peut-être dans sa dernière phase. Pour rappel, les négociations ont débuté il y a près de 25 ans pour créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Un accord politique a été trouvé en 2019. Et pourtant, ce traité, avec 5 pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et Bolivie, n'a toujours pas été adopté officiellement, notamment parce que la France s'y oppose. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Beaucoup de pays européens aimeraient pourtant conclure les négociations avant la fin de l'année.
Ou en tout cas avant l'intronisation de Donald Trump le 20 janvier, car le futur président américain a promis, on le répète sur cette antenne, des droits de douane de 10 voire 20% sur tous les produits importés aux États-Unis et de 60% sur les produits chinois, ce qui promet de susciter des représailles, une perspective qui pousse notamment l'Espagne ou l'Allemagne à tenter de faire aboutir l'accord au plus vite, souligne Elvire Fabry, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors.
Là, il y a une impatience de tous les États membres qui soutiennent cet accord. On va être confronté à une guerre commerciale et qu'il s'agit de pouvoir s'assurer d'avoir cette alliance resserrée avec les pays d'Amérique latine. À travers ces accords commerciaux, il s'agit aussi de rapprocher des intérêts stratégiques. Et la place que l'on ne prend pas en ne signant pas cet accord commercial, c'est la Chine qui la prend.
Du côté du Mercosur, l'intérêt est là aussi de diversifier les exportations et d'accéder au gigantesque marché européen. Une nouvelle session de négociation est prévue à la fin du mois.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a encore à négocier? Les pays européens veulent plus d'engagement de la part du Mercosur sur les questions environnementales?
Oui, la Commission européenne négocie une annexe à l'accord trouvé en 2019. Bruxelles veut y inclure le respect de l'accord de Paris sur le climat. Vous savez, l'objectif de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement de la planète. De son côté, le Brésil, par exemple, veut des garanties pour son industrie automobile face aux exportations de voitures allemandes.
Et l'Allemagne et la Commission européenne, Justine, veulent aller vite. Le Mercosur s'impatiente, lui aussi. Mais en France, l'accord ne passe pas.
Les agriculteurs déjà très mobilisés en début d'année, on s'en souvient, vont reprendre leur mobilisation la semaine prochaine. Ils dénoncent une concurrence déloyale. Plus de 600 parlementaires français de tous bords ont envoyé hier une lettre à la Commission européenne pour s'opposer à l'accord. La Commission qui souligne pour sa part que la France serait gagnante pour ses exportations de vin ou de lait et que les quotas de viande qui arriveraient retrait du Mercosur avec des droits de douane réduits sont très faibles. 1,6% seulement de la production européenne de bœuf, 1,4% pour la volaille. Une moyenne donc, les chiffres pourraient être plus importants dans certains pays. Paris a le soutien des Pays-Bas ou encore de l'Irlande. Elle tente de rallier la Pologne à sa cause, pas assez pour l'instant pour avoir de quoi bloquer la ratification du traité au niveau européen.
Merci Justine Fontaine en direct avec nous ce matin pour aujourd'hui l'économie, 7h20 à Paris. Et tout de suite, c'est notre grand invité international, Arnaud Pontus. Vous interrogez Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour à vous.
Bonjour Filippo Grandi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Bakou au moment où nous enregistrons cet entretien à la COP29 pour rappeler au monde que le changement climatique a aussi des conséquences lourdes sur la vie des réfugiés. Combien de personnes sont concernées ?
C'est toujours une question difficile parce que les changements climatiques, l'urgence climatique déplace des millions de personnes, mais elle les déplace de manière très différente. La montée des niveaux des mers, par exemple, déplace les personnes d'une certaine façon. Les catastrophes naturelles font de même. Et les conflits qui souvent sont liés au changement climatique déplace également des personnes. Donc, vous voyez, il y a une relation étroite entre les changements climatiques, le déplacement et les conflits, mais c'est une géométrie variable qui a des caractéristiques très différentes d'une région à l'autre.
Sur les 120 millions de déplacés de force, 90 millions sont dans des pays très exposés. Ce sont donc 90 millions de personnes qui subissent le changement.
Oui, alors là, c'est encore un autre angle, une autre perspective sur cette relation. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas déplacées par des changements climatiques. Pensez aux millions de déplacés et de réfugiés victimes de la guerre civile au Soudan. Beaucoup d'entre eux, par exemple, on le sait, vont au Tchad. Ils vont au Tchad à cause de la guerre. Mais quand ils se trouvent au Tchad, ils se trouvent dans une région qui est extrêmement fragile du point de vue climatique. Donc vous voyez encore une fois cette relation étroite. Et c'est vrai que les trois quarts des personnes réfugiées et déplacées se trouvent dans ce type de situation de fragilité. Donc c'est un élément qui devient de plus en plus important dans les réponses que nous fournissons aux déplacements et dans les solutions qu'on essaie de trouver à ces crises.
Oui, Filippo Grandi, ça veut dire que le réchauffement climatique vient encore aggraver une situation qui est déjà dramatique.
Il vient à créer ultérieurement du déplacement ultérieur, si vous voulez, et il vient à aggraver des situations de déplacement déjà existantes. Et donc, c'est une complexité, c'est un défi supplémentaire auquel il faut faire face. Vous l'imaginez, dans une situation, nous l'oublions pas, qui est remplie de conflits sans solution, de crises, de violences croissantes dans les sociétés, et tout cela produit du déplacement.
Filippo Grandi, vous écrivez dans le dernier rapport du HCR que la situation des réfugiés exige une action urgente. Et on parle des réfugiés autour du climat. Quelle action vous semble aujourd'hui prioritaire ?
Bien sûr, ce qui se discute à la base de toute la COP, donc la réduction des émissions, une action climatique sérieuse, tout cela est primordial aussi en relation au phénomène du déplacement dû au climat.
C'est d'abord œuvrer donc pour freiner le réchauffement.
Exactement, et ça c'est pas seulement pour faire baisser le nombre de déplacés, c'est parce que c'est la survie de notre planète, comme on le sait. Mais au-delà de ça, c'est clair que l'urgence est aussi dans l'action qu'il faut faire pour mitiger, ne fût-ce qu'en peu, les effets du réchauffement climatique sur les réfugiés. L'adaptation, comme on l'appelle techniquement, et l'ACER et d'autres organisations de plus en plus sont engagées dans ce type d'action pour essayer d'éviter les pires conséquences des changements climatiques sur les populations déplacées et n'oublions pas, et sur les populations qui les hébergent, qui sont aussi démunies et aussi impactées par le changement climatique que les réfugiés eux-mêmes.
Filippo Grandi, est-ce que la création d'un statut de réfugié climatique pourrait aider ?
Je ne pense pas. nous avons des instruments juridiques efficaces et puissants qui peuvent être utilisés. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de créer une autre catégorie. Vous savez, le HR ne parle pas de réfugiés de guerre, ne parle pas de réfugiés climatiques. Le HR parle de réfugiés qui obéissent à certaines définitions. Et je pense que ces définitions sont suffisantes à soutenir l'action des gouvernements et des organisations pour protéger ces personnes.
Filippo Grandi, on va laisser ce dossier un instant. Et une question à propos d'Israël, qui a décidé d'interdire l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens. Je précise que les réfugiés palestiniens ne sont pas pris en charge par le HCR, mais évidemment, c'est une question qui vous interpelle. Est-ce qu'il faut s'attendre à une catastrophe humanitaire plus grande encore à Gaza ?
Certainement. Si l'UNRWA ne peut pas œuvrer, ou disons-le, si l'UNRWA peut œuvrer encore moins de ce qu'elle peut faire maintenant, après une année de conflit, avec toutes les limitations que, pas seulement l'UNRWA, mais toutes les agences humanitaires doivent subir à Gaza surtout, et de manière croissante, je signale au Liban, si cela perdure, c'est clair que... Et si l'UNRWA ne peut plus œuvrer complètement, totalement, je pense que la catastrophe sera totale. Parce que c'est l'UNRWA qui porte la charge principale de cette aide humanitaire dans les territoires palestiniens.
Oui, vous parliez du Liban, où la guerre continue. Déplacement interne, plus de 800 000 personnes qui ont fui le sud du pays. Plus de 460 000 qui ont quitté le pays pour se rendre en Syrie. Est-ce que le HCR est en mesure de venir en aide à ces quelques 1 300 000 personnes ?
On fait ce qu'on peut avec les autres agences humanitaires. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai moi-même visité le Liban et la Syrie pour observer de près la situation. Nous avons, les Nations Unies ont publié 2 appels de fonds pour les 2 pays. Ils sont très mal financés pour l'instant. Donc, c'est important que ces financements soient accélérés pour pouvoir secourir ces personnes dans une situation militaire qui ne semble pas s'épuiser.
Oui.
Et qui continue de déplacer, mais aussi de tuer, de détruire, de créer une situation humanitaire insupportable.
Filippo Grandi, difficile de ne pas vous parler de l'élection de Donald Trump, parce que évidemment, ce retour va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous craignez un désengagement financier des États-Unis ?
Écoutez, c'est trop tôt pour traire des conclusions. On va voir quelles vont être les décisions de la nouvelle administration. Nous avons travaillé d'ailleurs entre 2017 et 2021 avec la première administration du président Trump. Nous avons eu des désaccords, mais nous avons aussi coopéré sur des dossiers importants. Et en ce qui concerne le HR, nos financements avaient à l'époque été maintenus. Mais bien sûr, on va s'engager comme on s'engage avec tous les pays, avec tous les gouvernements, et comme on s'engage toujours avec les États-Unis, qui restent un partenaire extrêmement important pour tout le système des Nations Unies.
Oui, c'est d'autant plus important en l'espèce que les États-Unis sont, corrigez-moi si je me trompe, le principal pays contributeur au budget du HCR, 2 milliards de dollars par an.
Ils le sont et ils ont toujours fait preuve de grande générosité, que ce soit des administrations démocrates ou républicaines.
Donc si je vous entends bien, vous voulez rester confiant et rester en dialogue avec la future administration Trump ?
Certainement, on va rester en dialogue comme on l'a toujours été.
Merci à vous, Filippo Grandi, et bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, entretien avec Arnaud Pontus à retrouver en intégralité sur notre site www.rfi.fr. Vous restez avec nous dans une bonne minute, le journal Afrique. Belle journée et bon réveil sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prévention et prise en charge de la pneumonie pour protéger les enfants.
Demain,
journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
étoiles, lunes, planètes, galaxies, comment débuter en astronomie et initier les enfants.
Demain,
la baisse de la natalité devient un phénomène mondial. Faut-il s'en inquiéter ?
contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Rendez-vous tous les vendredis pour éclairer le travail de la rédaction et des équipes des magazines de RFI à l'antenne, comme sur le numérique. Nous répondons à vos questions pour vous expliquer les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.